Bonsoir, la RDC est menée devant des juridictions d'arbitrage international par plusieurs entreprises. Le dernier cas en date est celui de Tullow Oil qui a obtenu de la Haute Cour de justice des îles Vierges le gel des activités pétrolières sur les blocs 1 et 2 attribués aux entreprises Capricat et Foxwelp en Itourie. Comment expliquer cette situation? Trois invités participent à cette émission. Professeur Grégoire Bakandeja, professeur de droit économique et des finances publiques à l'université de Kinshasa et à Paris en Sorbonne. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Droit minier et des hydrocarbures en Afrique centrale ». Professeur Bakandeja, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alain.
Professeur Tshibangu Kalala, professeur de droit à l'université de Kinshasa, avocat et député national. Professeur Tshibangu, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Al Kitenge, analyste économique et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, comme d'habitude, nous les avons déjà. Maurice, c'est triste de voir notre cher et grand pays traité de cette manière. Pourquoi nos gouvernants ne prennent-ils pas toutes les précautions lors des négociations de ces contrats pour éviter que le pays ne soit ainsi ridiculisé? Patience de Kinshasa, ne devrions-nous pas craindre que l'avenir de nos enfants ne soit compromis à cause des dettes inutiles, plus importantes et difficiles à payer si la RDC perdait ses procès? Bienvenue à tous dans votre émission.
Cette émission est une rediffusion.
La gestion minière et pétrolière amène la RDC et certaines entreprises devant l'arbitrage international. C'est le cas pour le pétrole de l'Itourie, le cuivre et le cobalt de Kolwezi ou encore d'autres cas particuliers. L'arbitrage international est sollicité surtout par les entreprises multinationales qui se sentent lésées dans certaines décisions prises par les autorités congolaises, des décisions ou transactions qui toucheraient leurs intérêts. Georges Kamjova pour les détails.
La pétrolière Tullow Oil a initié en août dernier une action contre la RDC devant la Chambre internationale d'arbitrage de Paris. Tullow Oil, qui avait sollicité un contrat de partage de production avec le gouvernement congolais en 2006 pour les blocs 1 et 2 du Graben Albertine, s'est dit surpris de voir ces deux blocs octroyés au Capricat et Foxwelp Limited. Ces deux entreprises ont bénéficié même d'une ordonnance présidentielle. L'affaire est présentement en cours d'instance, mais la Haute Cour de justice des îles Vierges, qui avait été sollicité aussi pour une action parallèle sur le même sujet, a opté provisoirement pour les gels des activités sur ces deux blocs. Tullow Oil, qui demande donc à la RDC de respecter ses engagements, demanderait plusieurs dizaines de milliards de dollars pour quitter les deux blocs. Et du côté minier, la RDC est en arbitrage international avec la canadienne First Quantum Minerals. Le tout est parti de la résiliation du contrat KMT, Kingamiambo Musonoi Tailings, une société qui devait exploiter les rejets de cuivre et de cobalt de Kolwezi. Dans ce projet, le Canadien dit avoir investi 600 millions de dollars. First Quantum a perdu devant la justice congolaise, mais s'estimant toujours lésé, il a sollicité l'arbitrage à Paris et réclamerait aussi des dommages et intérêts qui pourraient s'évaluer en termes de milliards de dollars. Pour l'instant, la Chambre de commerce de Paris a interdit toute manœuvre sur ce gisement de Kolwezi en attendant la conclusion du litige. Mais ce n'est pas la seule affaire entre la RDC et la Canadienne. La récente décision congolaise de dessaisir First Quantum des mines de Lonchi et de Kijiba au profit de la Sodimico a poussé encore First Quantum à solliciter un deuxième arbitrage. Il ne s'agit pas seulement de pétrole et des mines, les particuliers aussi. Diallo Kravat, un citoyen guinéen expulsé de la RDC par l'ancien Premier ministre Kengo en 1996, a traîné aussi la RDC devant la Cour internationale de justice avec la bénédiction de son pays. L'homme d'affaires réclame 36 milliards de dollars pour expulsion qui lui aurait fait des dommages dans ses affaires avec la Gécamines, l'Onatra et trois autres compagnies pétrolières. L'affaire étant délibérée et la décision devrait tomber avant la fin de l'année.
Merci Georges Kamjova, professeur Grégoire Bakandeja. Vous êtes professeur de droit économique et des finances publiques. Comment vous expliquez cette situation?
D'abord, il faut vous dire que le secteur minier, celui des hydrocarbures, représente beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, des enjeux stratégiques, et ça fait donc l'objet des convoitises de la plupart des États. Alors, ce qui nous arrive aujourd'hui, je crois que c'est le résultat d'une absence de politique proactive, de recherche de compromis lorsqu'il y a des difficultés qui se posent dans ce secteur. Et je pense que Avec l'arbitrage, on aurait pu peut-être éviter ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que ce qu'il faut craindre, c'est que ces sociétés recourent à des fonds vautours, par exemple, c'est-à-dire recourent à des gens qui vont racheter ces dettes s'il y a des condamnations qui sont confirmées, et que cela soit préjudiciable aux intérêts de la République. Mais je crois que ce n'est pas encore tard, il y a toujours moyen de trouver une solution. C'est pourquoi il a été envisagé cet arbitrage qui est toujours nécessaire avant d'arriver à des solutions qui puissent préjudicier les intérêts de la République.
Il y a des enjeux, professeur, vous le dites, mais est-ce que la RDC négocie mal?
Bon, c'est à la fois un problème de négociation et des capacités de négociation. Vous savez, lorsque on traite ces dossiers, c'est pas souvent ceux qui traitent avec les décideurs qui sont les maîtres du jeu. Les maîtres du jeu, ce sont les multinationales. Et vous savez, lorsque les multinationales viennent dans un pays, elles ont tendance à imposer les règles internationales qui sont liées aux pratiques qui sont sur le marché international. Et dans le secteur principalement des hydrocarbures, il y a moins de règles formelles que de la pratique. Et vous savez, lorsqu'un investisseur vient l'investisseur, c'est lui qui mobilise des fonds importants pour la recherche, pour l'exploitation. Et souvent, c'est des gens qui ne sont pas des philanthropes. Ils recherchent beaucoup d'argent et ils préfèrent parfois en avoir plus. Et il y a toujours un déséquilibre dans les négociations qui conduisent à la conclusion des contrats qu'on a appelés à un certain moment des contrats léonins. Mais tout dépend des personnes aussi qui négocient avec ces investisseurs. Et c'est pourquoi dans la plupart des pays, on recourt pour la négociation de ce genre de contrats à l'expertise. On utilise les services d'intelligence. L'intelligence qui permet de prévenir les risques éventuels qui sont liés à une négociation d'un contrat avec des gens qui sont plus forts que les nationaux dans le domaine de la recherche de profit.
Professeur Tshibangu, vous êtes professeur de droit à l'université de Kinshasa, avocat et député national. Quelle est votre analyse à vous, hein? Comment expliquer cette situation? Le professeur Bakan déjà parle d'une absence de politique proactive, de recherche de compromis. Quelle est votre analyse?
Oui, monsieur Hirung, contrairement à mon frère, professeur Bakandeja, moi je vais remuer le couteau dans la plaie, n'est-ce pas? Eh bien, si nous sommes aujourd'hui devant ces problèmes, n'est-ce pas, c'est parce que nous n'avons pas la culture de l'intérêt public, nous n'avons pas la culture de l'intérêt général dans ce pays. C'est un problème d'incompétence, de cupidité, de malhonnêteté. Voyez, l'équipe qui est souvent chargée de négociations de ces contrats au nom de notre pays, les hommes qui sont là, c'est du copinage, c'est des démarches intéressées. On veut, comme vous avez dit, mon collègue parle de l'intelligence en termes de renseignement et d'études. Non. Ici, dans notre pays, il y a une guerre organisée contre l'intelligence, contre les gens qui sont méritants, qui sont compétents. Ils sont exclus, c'est des sous-fifres, des gens qui vont aller négocier des commissions, choses, et on exclut des gens compétents qui peuvent analyser les dossiers de manière correcte, efficace, pour préserver les intérêts des États. Je crois que nous allons revenir peut-être sur l'affaire Tuloil, avec les documents que j'ai pu lire dans la presse, par-ci par-là, on va illustrer cela. Donc tout le problème, je vais être très clair dessus, nous négocions mal, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que la RDC négocie mal? Oui, la RDC négocie très mal parce que souvent, on exclut des gens intelligents, compétents, qui peuvent faire un travail correct pour le pays.
Mais ce n'est pas l'expertise qui manque pour cela.
Écoutez, mais nous avons tous les cerveaux, c'est dans ce pays. Écoutez, si on met mon collègue professeur Bagan déjà autour de la table, avec des investisseurs étrangers, on lui demande des avis. Il ne veut pas devenir ministre, il ne veut pas prendre la place des uns ou des autres, mais qu'on l'associe à la négociation pour attirer l'attention des uns et des autres autorités sur la manière de défendre les intérêts du pays. Mais ça, on ne le fait pas. On voit tout le monde comme des concurrents qui veulent prendre les places des uns aux autres. On veut fuir avec les dossiers, on les traite en catimini, etc., avec des copains. On prend dans nos ministères. Qui sont des conseillers dans nos ministères, M. Young? Nous prenons des neveux, des cousins, qui viennent à peine de terminer les études, c'est ça les conseillers des ministres, ce sont qui étudient les dossiers, mais qui n'ont aucune expérience, aucune compétence en la matière. Vous voyez le problème. Et on le verra par exemple avec l'affaire Tulloil. Eh bien moi, en tant qu'élu du peuple, eh bien je dois tenir un discours de dénonciation, de comportement qui nous amène aujourd'hui à des procès qu'on aurait pu éviter si les dossiers étaient très bien traités, bien examinés. Vous savez, vous allez en Europe aujourd'hui, dans les administrations, mais vous avez des docteurs en sciences politiques, des docteurs en droit, mais c'est eux qui tiennent des administrations européennes, voyez-vous. Mais aujourd'hui, dans notre administration, quelle expertise avons-nous là-dedans, voyez-vous. Maintenant, c'est tout un travail de réforme en profondeur de l'État, d'inculquer la culture de l'intérêt général, de l'intérêt public, pour que nous puissions arriver à bien gérer ce pays. Donc il faut changer complètement, M. Young, la gouvernance globale de ce pays. Si nous continuons sur cette voie, eh bien, les procès vont continuer à se multiplier pendant encore des années contre notre pays, alors que nous avons toutes les compétences qui peuvent faire bon travail pour notre pays et éviter des contrats mal rédigés, mal conçus, des gens qui se précipitent à signer, à poser des signatures sur des documents qui engagent l'État, qui engagent des générations futures dans des histoires obscures, mal négociées. Je crois qu'il est temps que nous puissions travailler tous pour améliorer la gouvernance globale de ce pays.
Al Kitenge, vous êtes analyste économique et stratège. Le professeur Chibangu parle de l'absence de culture de l'intérêt général.
Il n'a pas tort, malheureusement, parce qu'il n'est pas acceptable de constater que contrat après contrat, ils sont tous léonins, c'est nous-mêmes qui le disons. À la limite, on se pose la question de savoir si ce ne sont pas les personnes qui sont léonines. Et là-dessus, il faut quand même s'interroger sur quelque chose d'assez simple. Comment ça se fait que nous constatons toujours cela en bout de chaîne? Il n'y a pas un processus de gestion de qualité dans notre procédure d'engagement de l'État. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller à la base. La vérité là-dedans, c'est que, aussi bien pour le pétrole que pour le secteur minier, généralement, nous n'avons pas le plan. Ce sont finalement les partenaires qui viennent nous dire « Mais vous savez, ici, vous avez un tel potentiel » et ils viennent avec un cahier des charges, un draft de contrat déjà établi. Et ça se passe très mal dans notre pays. Généralement, ça ne rentre jamais par la grande porte. Il y a toujours un porteur de projet à l'intérieur. Et généralement, malheureusement, c'est un de nos frères qu'on recrute pour la sale besogne. Et je crois que la plus grosse difficulté, c'est que là, nous sommes en train de jouer dans la cour des autres. Si le Congo avait un plan minier documenté avec une stratégie à la base, c'est nous qui aurons pu être en mesure de faire appel aux gens pour venir exploiter avec nous selon notre leadership. Mais très malheureusement, aussi bien pour STL, pour First Quantum avec KMT, que dans le secteur pétrolier avec Tulloil, c'est eux qui viennent vous dire qu'ils veulent faire un certain nombre de projets chez nous. Bien entendu, lorsque vous vous asseyez avec eux, ils ont les informations techniques que nous n'avons pas, simplement parce que nous ne finançons pas les études. Et de ce point de vue, nous agissons donc en toute ignorance, alors que eux agissent en toute connaissance. La conséquence devient simple, c'est que après, nous commençons à nous rendre compte que nous avons dit oui trop rapidement, là où on nous proposait 10 et nous pensions que c'était beaucoup, en réalité nous aurions pu avoir 10 fois plus. Ça c'est le prix de l'ignorance, c'est le prix de l'incompétence. Et je pense là-dessus que le plus important, c'est que pour le reste des secteurs, comme le secteur de l'agriculture où les terres arables deviennent un véritable enjeu du monde, le secteur de l'eau et de l'énergie propre,
la forêt, qui
sont des véritables secteurs où tout est encore vierge, il est important que le Congo se dote d'un plan, qu'il se dote d'une stratégie, d'une vision. En fait, là, nous sommes en train de payer le prix de la gestion courante des affaires de l'État. C'est pour ça que je pense que nous allons nous plaindre de ce qui est arrivé, mais on aurait dû déjà réfléchir à comment cela est arrivé. Je crois que dans le cas de Tulloil, encore une fois, ce n'est pas l'initiative congolaise. C'est la même frustration que nous avons avec l'Angola. Parce que simplement, l'Angola a investi de l'argent, ils ont donc des données techniques. Et quand ils viennent autour de la table avec nous, excusez-moi, eux, ils sont documentés. Nous n'avons même pas les cartes. Et ça pose toute la frustration qui vient après, mais à un moment donné, je pense que nous devons être simplement responsables.
Professeur Bakan, déjà, vous avez suivi Al Kitenge, le professeur Chibangu, qui a remué, comme il l'a dit, pour lui voler ses propres termes, remué le couteau dans la plaie. Quelle est votre réaction?
Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire mes amis. Je pense que le grand problème que nous avons dans le pays, c'est que les dossiers sont mal ficelés. Et je crois qu'ils n'ont pas été tendres de ce côté-là. Ils ont dit des choses telles qu'elles se passent dans la plupart de nos ministères, etc. Vous savez, dans chaque pays, lorsque tout est par terre, il ne reste plus que les têtes pour agir. C'est pourquoi on recourt à l'intelligence. Mais si on ne veut pas recourir à l'intelligence dans le pays, on connaîtra toujours les mêmes situations avec des partenaires qui viennent, parce que nous n'avons pas la culture du respect des engagements. C'est ça qu'il faut relever. Manque de culture du respect des engagements qu'il faut tenir nécessairement, et en matière des hydrocarbures, lorsque vous traitez un investisseur de manière peu honorable, cet investisseur peut recourir aux mécanismes qui sont connus, mécanismes d'expropriation par exemple. Et c'est ainsi que l'on parle souvent de l'expropriation indirecte. Lorsqu'un investisseur vient dans un pays et qu'il se trouve en face des acteurs nationaux qui ne respectent pas les règles du jeu, et s'il y a un problème qui surgit, cet investisseur est protégé par le droit international sur la base de la théorie de l'expropriation indirecte. Et lorsqu'il arrive à ce point-là, le pays a des difficultés pour gagner, parce que tous les grands investisseurs de ce monde vont se grouper derrière l'investisseur exproprié indirectement. Et cela participe de ce qu'on a l'habitude de rappeler tous les jours, qu'il faut améliorer l'environnement des affaires. C'est des termes. Améliorer le climat des affaires, c'est pour vous dire, respectez d'abord vos engagements et puis faites que les gens ne soient pas fracassés. Et cela, c'est justifié par le fait que dans le pays, nous n'avons pas, par exemple, d'infraction d'ingérence. Une infraction d'ingérence, c'est le comportement d'un mandataire public qui exigerait de bakchiche à un investisseur étranger pour qu'il puisse accorder un marché. Et nous sommes le seul pays où cette infraction n'est pas consacrée par le droit pénal. Ça veut dire que la prise d'intérêt d'un fonctionnaire dans les affaires qui sont soumises à sa surveillance, ça n'existe pas dans notre pays. C'est ce qui justifie le comportement de la plupart des personnes qui arrivent à des postes de responsabilité. Parce que vous savez, l'une des grandes tares que nous avons, c'est que les gens au Congo ont appris à gérer l'économie en gérant les entreprises publiques. Vous voyez quelqu'un qui vient gérer pour la première fois, il gère l'économie, mais il gère une entreprise qui est public. Alors, il confond l'entreprise publique avec sa boîte personnelle, et c'est ce qui justifie tous ces dérapages, parce que les contrats sont signés avec des collaborateurs qui sont en fait des parasites à la recherche du gain.
Professeur, il y a plusieurs fois, on a entendu par-ci par-là, révision des contrats miniers, révision de contrats, ceci et cela. Avez-vous l'impression que la RDC sait ce qu'elle recherche?
Mais la RDC ne peut pas savoir ce qu'elle recherche parce qu'elle a d'abord signé. Si le pays a signé des contrats et qu'il demande ce que vous appelez révisitation, ce n'est pas un mot français, mais vous voulez revoir le contrat qui a été signé alors que pendant que les négociations se déroulaient, vous n'allez pas quand même dire que pendant qu'on négociait, les gens dormaient. Alors vous voyez, la plupart des contrats, par exemple en matière des mines, du pétrole, ont été signés pendant que les gens dormaient. Et les partenaires extérieurs qui connaissaient bien les Congolais utilisaient souvent les jeunes demoiselles dans des hôtels pour faire signer certains contrats. Et quand les Noirs se retrouvaient devant les jeunes européennes, ils signaient parfois sans lire. Et c'est ce qu'on a dans la plupart des contrats en matière de gestion pétrolière.
Est-ce d'expérience que vous parlez?
C'est pas d'expérience, ce sont des choses qui sont connues. Je sais que j'ai eu peut-être le malheur de passer par un ministère, mais généralement, avant nous, les choses se passaient autrement que ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si on a repris les mêmes habitudes des années 70.
Avant de donner la parole au professeur Tshibangu, nous allons prendre cette question d'auditeur.
Blaise Osungo de Kananga ou Kasaï occidental. Peut-on considérer cette situation comme conséquence d'une négociation de contrats internationaux par des personnes non expertes ou simplement un manque de volonté d'honorer les engagements?
Professeur, vous avez déjà donné une partie de la réponse.
Oui. Eh bien, le problème est là. C'est tout simplement l'ignorance, l'incompétence dans la négociation de ce genre de contrat. Mais je vais vous donner un exemple. Parlons de l'affaire Tulloil. Eh bien, le contrat de partage de production avec Tulloil a été signé le 21 juillet 2006. 21 juillet 2006. Mais se diront que le 21 juillet 2006, nous sommes en pleine campagne électorale. Le président de la République, certains ministres, tous, nous sommes en campagne électorale. D'ailleurs, le 21 juillet, c'est à quelques jours de la fin de la campagne. C'est une période largement suspecte. Pendant une telle période, on ne peut pas engager un État dans ce type de contrat qui vont durer des générations et des générations. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dès que le premier gouvernement qui a été mis en place à l'issue des élections, la première chose à faire, c'est de commencer à remettre en cause le contrat de Tulloil. Déjà en février 2007, quelques mois à peine. Et vous connaissez la suite. Et donc c'est ça le problème. L'État fonctionne mal. Je sais qu'en France, il y a par exemple une loi sur l'expédition des affaires courantes. Je pense que dans notre pays, il faut qu'on ait aussi une loi comme ça pour interdire, pour empêcher que pendant certaines périodes suspectes dans la gestion de l'État, qu'on ne puisse pas poser certains actes. Et nous sommes là. Donc ce contrat est né dans des conditions suspectes, difficiles, et voilà les conséquences aujourd'hui. Et nous avons signé ce contrat. L'État a posé sa signature. Donc on a même violé encore le principe de la continuité de l'État. L'État s'est engagé le 21 juillet 2006. Quelques mois après, le même État commence à revenir. Et donc c'est ça tout le problème. Le problème d'incompétence, le manque de la culture de l'intérêt général, de la culture de l'intérêt public. Et ceux qui sont là, finalement, ne savent pas ce qu'il faut faire. Bon, on lui présente un dossier, on dit que c'est 5, vous signez, bon, on va vous donner 5 millions ou 500 000 dollars comme pas de porte. Dans l'affaire Tulloil, quelques jours après, il constate, oh, 500 000 c'est trop peu, mais on aurait pu demander un peu plus. Il commence à revenir sur les chiffres. Et donc, on fait du va-et-vient. Et on se retrouve devant des tribunaux internationaux et avec un dossier qui devient difficilement défendable. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'arbitrage international, monsieur? Ça, ce sont des tribunaux que les capitalistes mettent en place. Et généralement, devant ces tribunaux internationaux, l'arbitrage, moi j'ai plaidé plusieurs fois devant ce type de tribunaux, ce sont des gens qui, par réflexe, sont déjà pro-investisseurs. Donc ils disent, voilà, un investisseur étranger qui est allé en Afrique, il a pris trop de risques. Les gens ont tendance à bien analyser ses arguments, à voir s'il a été respecté par l'état d'accueil ou pas. Et donc, vous partez déjà avec un handicap, parce que ces tribunaux sont déjà favorables aux investisseurs, donc, dans leur culture. Et donc, il faut faire très attention. Quand le gouvernement signe des contrats avec les investisseurs étrangers, surtout faire attention avec les clauses d'arbitrage. Il ne faut pas mettre n'importe quoi dans les clauses d'arbitrage. D'abord, l'arbitrage coûte très cher. Si vous allez à la
RDC en a-t-elle le moyen?
Je vais y arriver, monsieur Yon. Voilà. Vous arrivez à Paris, Chambre de commerce internationale de Paris, qui est là, juste à côté d'ailleurs de notre ambassade, sur le cours Albert Ier. Eh bien, les honoraires qu'il faut payer aux avocats, d'un côté, et de l'autre, les frais pour faire fonctionner le tribunal arbitral, eh bien, ça peut arriver à 3 millions de dollars. Parce qu'il fixe ça en fonction du montant du litige. Alors, si vous arrivez ici à Kinshasa, vous demandez au gouvernement, au ministère des Finances, bon, sortez 1 million de dollars, d'abord pour payer pour les frais de fonctionnement du tribunal, d'un côté. L'avocat que vous prenez, si c'est un cabinet parisien ou bruxellois ou ailleurs, son européen, il va vous demander 300 000 dollars à titre de provision. Il n'y a personne qui va sortir même un dollar ici pour payer. Et généralement, le Congo se retrouve là sans avocat, rien, et il y a des condamnations par défaut. Et donc, quand on s'engage dans ce genre de choses, il faut faire très attention. Il ne faut pas signer n'importe quoi, parce qu'il y a des conséquences. Le coût de l'arbitrage international est très élevé. Il faut faire attention quand on signe ce genre de contrat. Donc, problème d'incompétence et problème de la culture de l'intérêt public, c'est tout cela qui est à à la base des difficultés que nous avons aujourd'hui.
Al Kitenge, le 11 février dernier, le chef de l'État a promulgué la loi portant adhésion de la RDC à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. Qu'est-ce que ça peut améliorer dans ce genre de situation?
L'adhésion à l'OADA est encore une fois une contrainte supplémentaire, simplement parce que nous sommes considérés comme un pays indiscipliné, incapable de respecter ses propres lois et les lois internationales auxquelles, très malheureusement ou heureusement, nous sommes liés par voie d'adhésion internationale. Et la difficulté du Congo, c'est justement cette incapacité à pouvoir dire une chose aujourd'hui et la respecter demain. Vous savez, la question de la continuité de l'État, elle est extrêmement importante. Quand des gens signent des documents au nom de l'État, il faut rester fidèle. On ne peut pas être un pays prostitué. Ce n'est pas bon. Déjà sur la place internationale, nous sommes très mal considérés. Notre pays est calqué au rouge. Et tout ça, ça nous coûte trop cher. Je pense que, bien sûr, adhérer au droit international, adhérer à l'OADA, c'est une très très bonne chose. Mais il faudra déjà traduire tout cela en droit national. Et à côté de ça, il faut avoir la discipline de respecter les choses auxquelles nous nous sommes engagés. Et je crois simplement que là-dessus, ça pose une question simple. C'est celle des circonstances dans lesquelles les gens signent les divers contrats. Vous savez, dans des pays qui se respectent, il y a une procédure connue. Un contrat qui atteint tel montant, telles sont les institutions qui sont censées intervenir pour arriver à l'homologation du contrat. Mais chez nous, chacun peut se permettre de prendre des risques au nom de l'État. Nous avons vu dans ce pays, dans le cadre de Mag Energy par exemple, deux ministres à la tribune du Parlement se contredire en 10 minutes. C'est honteux. Ça montre simplement que l'un et l'autre ne travaillent pas nécessairement pour la même cause qui se trouve être la cause de l'État. Quelles sont ces autres causes pour lesquelles les gens peuvent réellement s'engager en ayant en charge un ministère? C'est toutes ces questions que nous devrons être en mesure de nous poser. Je crois que chez nous, il y a un gros problème de partis politiques. Il y a des choses qui dépassent les partis politiques. Il y a des choses qui tiennent de l'intérêt de l'État et surtout de l'intérêt à long terme. Ça pose toute la question du calibre des hommes d'État dans notre pays. Nous avons un très petit calibre. Mais nous sommes malheureusement un pays avec une très faible mémoire. Des gens peuvent poser des forfaits graves aujourd'hui, mais demain ils vont revenir au pouvoir par un jeu ou un autre. Mais c'est des choses complètement sérieuses. Et je pense là-dessus que nous devrions être en mesure de faire ce qu'on appelle le fichier des individus. Quand quelqu'un a commis un forfait d'un certain type, il ne devrait plus jamais revenir aux affaires. Et aujourd'hui, très malheureusement, nous avons des criminels politiques qui prennent des risques graves pour l'État et qui, le lendemain, sont en mesure de vouloir donner des leçons aux autres. Et je crois là-dessus qu'il y a un sérieux problème de notion d'État. Est-ce que nous avons un État? Est-ce que nous fonctionnons normalement? Et quand on se pose toutes ces questions, la réponse est malheureusement non. Parce qu'il n'est pas logique qu'un pays s'engage pour une chose et que quelques mois plus tard, il se désengage. On ne peut pas avoir 13, 14, 15 contrats, tous léonins, et on veuille les considérer de manière tout à fait directe. Ça ne doit pas être des choses qui sont liées à des individus.
Al Kitenge, prenons, nous sommes vraiment dans des hypothèses. Prenons le cas de ce citoyen guinéen qu'on a cité dans le reportage tout à l'heure, qui réclamerait près de 36 milliards de dollars à l'État congolais. Supposons, mettons-nous dans l'hypothèse où il gagnait ce procès.
C'est de la surenchère. Il ne gagnera jamais ce procès pour ce genre de montant, parce que finalement, il y a certainement des mécanismes pour évaluer la hauteur des dégâts qu'il a reçus et des dommages réels qu'il a subis. Mais il peut gagner le procès s'il démontre de manière assez claire qu'il a été injustement et illégalement déporté de ce pays. Et là-dessus, vous pouvez être sûr que les mécanismes pour se faire payer, il y en a 13 à la douzaine. Et donc, c'est un véritable risque financier pour le pays. Et encore une fois, il y a des responsables individuels et institutionnels à ce genre de choses. Certains sont encore en vie.
Il y a cet auditeur Kassamba Wanango de Bouya en province orientale, Al Kitenge, qui dit « Tant que les affaires de l'État seront traitées dans l'opacité propre à un secret défense, la RDC sera toujours traînée devant les instances judiciaires internationales et perdra sa crédibilité en ce qui concerne le doing business. » Bref réaction, Al Kitenge.
L'auditeur a raison. Vous savez, quand on parle d'opacité, c'est l'inverse de la transparence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous devons avoir une procédure, nous devons savoir pour engager le pays qui le fait, à quelle hauteur. Et si ces personnes engagent le pays, cela doit être respecté. C'est pour ça que dans certains pays, quand un contrat dépasse un certain montant, ça doit absolument passer par le Parlement. Et je pense qu'il est important que ce pays redonne la force au Parlement pour que celui-ci exerce le contrôle sur le gouvernement. Chez nous, très malheureusement, les gens, quand ils sont au pouvoir, ils abusent du pouvoir. Ils abusent du pouvoir à leur propre profit et très malheureusement, ça coûte trop cher à la République.
Professeur Wakan, déjà, Al-Kitenge propose déjà de mettre des procédures pour signer des contrats. Quel est votre avis à ce niveau?
Mais le problème, ça ne va pas résolu par les procédures. Le problème est résolu par l'application des lois et l'application des sanctions négatives comme des sanctions positives à l'endroit de ceux qui ont eu des comportements déviants. Ça, c'est ça la solution. Mais je crois que nous avons discuté longuement sur la qualité des animateurs. Vous savez, les animateurs des institutions. Chaque peuple mérite les dirigeants qu'il se dote. Et ça, c'est un principe qui est connu partout. Ah, mais lorsque dans un pays, vous avez des gens qui valorise, par exemple, ceux qui détournent les deniers publics, qui les appellent, en termes vulgaires, grands prêtres. Vous savez, lorsque vous êtes à la gestion et que vous sortez sans avoir manipulé de manière désordonnée les fonds publics, vous êtes considéré comme un imbécile. Alors que celui qui dépouille l'État de ses moyens, est considéré dans le quartier comme étant un grand prêtre. Alors, vous voyez, on est arrivé dans des systèmes qui aujourd'hui nous classe parmi les États hors la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impunité. Et la lutte contre le détournement, la corruption, mais c'est tout ce qui est à la base de ce que nous avons comme difficulté aujourd'hui, puisque cette lutte-là n'est pas menée avec efficacité et efficience.
Deux auditeurs pour vous, professeur Bakan. Déjà, Robert Bahomé de Bukavu Sud-Kivu. Pourquoi vouloir une chose et son contraire à la fois, d'un côté bien passer les contrats avec ses partenaires et de l'autre ne plus encore en respecter les clauses? Cédric de Kalima Omanyema, la RDC a encore un grand effort à fournir en matière de justice, parce que les juridictions congolaises sont toujours considérées comme privilégiant certaines personnes au détriment d'autres. Brève réaction, professeur.
Bon, une chose est son contraire, mais ça participe de notre propre turpitude. Je crois que Maître Kalala était clair, il a parlé de l'incompétence, de l'ignorance. Et, je ne voudrais pas aller jusque-là, mais j'ai dit tout simplement que il y a un adage latin qui dit « Nul ne se prévaloir de sa propre turpitude ». Vous avez signé un contrat. Pendant que vous signez, je ne pense pas que vous dormiez, parce que quelqu'un qui signe, c'est qu'il est en état de conscience. Et s'il a signé et qu'il réunit la signature, ça participe de la culture de non-respect des engagements pris. Et ici, en droit international économique, on tient, tout est basé sur la confiance. Et la confiance, c'est la parole. La parole qui a été donnée, la parole qu'il faut respecter. Or, c'est ça qu'on nous reproche à l'extérieur du pays. Ou lorsque vous traitez avec un Congolais aujourd'hui, dès qu'il n'est plus aux affaires, c'est lui qui revient, il reprend les choses à zéro, et on doit recommencer les mêmes démarches. C'est pourquoi on nous demande d'adhérer par exemple à l'OADA. Mais il ne suffit pas d'adhérer à l'OADA, il faut changer tout un système. S'il faut adhérer à l'OADA, et je crois qu'on va le faire dans les prochains jours, puisqu'on doit déposer les instruments de ratification auprès de l'État dépositaire qui est le Sénégal, et puis en ce moment-là, on aura 2 mois pour appliquer ce droit à partir de janvier 2011. Mais il ne suffit pas d'appliquer ce droit. Il y a tout autour du système judiciaire, des administrations, qu'il faut réformer. Et je crois que le professeur Tshibangu tout à l'heure a parlé de la présence dans les administrations des États modernes des gens qui ont des diplômes. Or, dans nos administrations ici, vous avez certains danseurs des groupes caqués dans le temps qui sont des chefs de division et parfois même des secrétaires généraux. Alors, avec ces gens-là, qu'est-ce que vous pouvez négocier avec ces gens-là? si ce n'est de leur faire gober tout ce qu'on peut avoir comme document préparé ailleurs. Et je sais qu'ils n'est pas dans ce domaine-là, contre de l'argent.
Professeur Tibangou, Jean-Claude Mboujima, Kassai Oriental, dit il est révoltant de vivre les erreurs dans lesquelles certaines de nos autorités conduisent le peuple congolais. Il suffit seulement de jeter un regard au cas de KMT, Commissariat Frontières PRL, filiale de First Quantum, pour voir les dessous des cartes, ce qui est vraiment honteux. Professeur, vous avez décrié l'ignorance, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement au stade où nous en sommes aujourd'hui pour remédier à tout ça?
Oui, afin d'y arriver, je vais donner un exemple concret. Voilà. Je reviens sur l'affaire Tulleul, que j'ai lu dans la presse, dans les journaux ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 21 juillet 2006, on signe un contrat de partage de production avec cette société après un appel d'offres international. Donc la transparence. Mais, 4 ans après, au mois de mai de cette année-ci, on signe un nouveau contrat sur les mêmes blocs pétroliers avec ces sociétés Capricat et Foxwell. Cette fois-ci, il n'y a pas d'appel d'offres internationales, c'est de gré à gré. Donc on négocie autour d'une table. Donc l'opacité, la transparence. Et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il y a des procès maintenant aux îles Vierges britanniques. Eh bien, Tulleul, il a bloqué toute activité pétrolière dans cette partie de notre pays. Le contrat est paralysé. Et donc, on a accordé ce contrat, c'est vrai, pour rien, parce qu'on est dans les procédures aujourd'hui. On ne peut rien faire. Bon, transparence contre la transparence. C'est les mêmes autorités qui font ça. Et donc, comment voulez-vous, M. Irung, que nous puissions progresser dans un tel environnement? Quelle solution il faut proposer? Il n'y a pas de solution magique. Il y a un, il faut, comme mon collègue Bagan déjà l'a dit, il faut qu'on change de manière radicale la gouvernance globale de ce pays. Il faut qu'on mette des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Le népotisme, le favoritisme, le copinage, il faut y mettre fin. Deux, il faut que nous puissions nous-mêmes réfléchir pour voir mais c'est quel modèle d'État nous voulons créer dans ce pays. Est-ce qu'on doit continuer avec le même système, le même État que les Belges nous ont donné en 1960, ou nous devons adapter les choses conformément à notre environnement, à notre tradition, à notre culture, parce qu'apparemment, nous avons des difficultés à gérer cet appareil étatique tel que nous l'avons récupéré des Belges. Donc, ça demande des réformes en profondeur, n'est-ce pas? Il faut qu'on mette en place, qu'on ait en fait. Le problème, ce sont les hommes qui ont créé tout cela. Et moi, je considère que ce n'est pas de la fatalité. Les mêmes hommes qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui, les mêmes hommes peuvent se ressaisir pour mettre à la tête de ce pays, c'est un défi pour nous tous, de mettre à la tête de ce pays des bons dirigeants qui vont prendre des décisions stratégiques justes et qui auront la volonté de les appliquer avec détermination et vigueur pour que nous puissions mettre ce pays sur la voie du développement, pour construire dans ce pays un État moderne qui marche.
Al-Kitenge, la situation actuelle n'est pas une fatalité, c'est le prof Tibangou qui le dit. Vous aviez déjà commencé à énumérer quelques solutions. Il faudrait, je pense, comme l'a dit le professeur Bakan déjà, renforcer également l'appareil judiciaire.
Oui, Alain, j'insiste encore une fois qu'il faut des procédures. Parce que si vous laissez les choses au hasard, bien sûr, elles tombent entre les mains de la compétence ou de l'incompétence des individus. Vous savez, ce qui est plus fort, ce qui doit rester fort, ce n'est pas les hommes, ce sont les systèmes. Parce que les systèmes contrôlent les personnes. Vous mettrez les personnes les plus intelligentes dans un système qui n'est pas contrôlé, leur moralité va donner des bons ou des mauvais résultats, en fonction du fait qu'ils ont une bonne ou une mauvaise moralité. Là vient toute la grande question de l'éthique. Mais je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin. Vous savez, aujourd'hui, on a essayé de trouver des excuses à ce qui est arrivé à la République démocratique du Congo en disant que c'est une question d'intelligence. Ce n'est pas qu'une question d'intelligence. L'appareil de l'État est plein de professeurs d'université. C'est aussi une question de bonne foi. C'est une question d'éthique, c'est une question de moralité d'affaires. Mais ça pose toute la question de la discipline d'un État. Nous sommes un État hyper indiscipliné. Regardez ce qui se passe sur la route, des véhicules qui sont dans n'importe quel État, des avions qui volent dans un État indescriptible. Nous avons une question véritable d'indiscipline généralisée. Je voudrais revenir encore une fois sur la question de Mag Energy.
C'est le comité de gestion qui signe, le conseil d'administration n'en veut pas, mais finalement il y a un ministre qui signe avec le comité de gestion, et puis un autre qui dit que ça ne peut pas marcher avec le conseil d'administration. Nous sommes dans quel pays? Nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto. Simplement parce qu'on ne sait pas en réalité comment ça devrait se faire, qui devrait engager l'État et de quelle manière. Ce n'est pas clair. Et là-dessus, je pense que un pays qui n'a pas un design correct de sa gestion va toujours se retrouver dans des choses qui sont complètement inacceptables. Aujourd'hui, ça dépend de la force et de la capacité, de la puissance politique de la personne qui est en place et de ses parapluies. Et je crois simplement que gouverner, c'est se doter des stratégies. Mais se doter de stratégies, c'est d'abord étudier complètement les atouts que vous avez et dont vous disposez et être en mesure de décider des processus par lesquels vous êtes censé transformer votre potentiel en richesse. Aujourd'hui, chez nous, c'est que nous agissons au jour le jour. Aujourd'hui, chez nous, ce que nous répondons en mode d'urgence. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'en mode d'urgence, vous pouvez signer des choses qui ne sont pas réellement bonnes. Simplement parce que ça vous donne une solution circonstancielle. C'est pour ça que la plupart des contrats que nous avons remis en question, c'est des contrats qui ont été signés pendant la guerre. Et pendant la guerre, les gens ont besoin d'argent pour parer au plus pressé. Et là-dessus, il ne faudrait pas que l'État congolais ait une mémoire courte. Il faudrait que la population congolaise se rende compte que nous avons une responsabilité dans le long terme. Et pour ça, nous ne pouvons réagir dans le long terme qu'avec des stratégies et pas avec la tactique.
Professeur Bakan, déjà, dans les ministères, il y a également des professeurs d'université. Al-Kitenge insiste sur l'éthique et la bonne foi.
Mais vous savez, ce n'est pas le titre universitaire qui donne la compétence à un individu, hein. Vous pouvez avoir des titres universitaires, mais vous pouvez être incompétent avec des titres universitaires. Et puis, ce n'est pas tous les professeurs d'université qui ont le monopole de l'intelligence. Donc l'intelligence, on peut aussi la trouver auprès des personnes qui ont même le diplôme d'études secondaires réussies, mais dans des bonnes conditions. Alors, dans ce qui se passe maintenant avec les contrats, moi je vous dis simplement que ceux qui savent utiliser le droit, parce que le contrat, c'est avant tout le droit, à des fins stratégiques, peuvent en tirer un avantage significatif, pourvu qu'ils utilisent les intelligences. Et nous avons les intelligences à des champs variés, économiques, sociaux, culturels, et c'est ça qui peut nous conduire au progrès. Mais lorsque dans un pays, on privilégie la prédation, par exemple, vous savez, dans ce secteur ici, ce n'est un secret pour personne. Le secteur des mines et des hydrocarbures, ce sont des secteurs où il y a des grands prédateurs de ce monde. Et les pratiques de prédation pour les investissements dans le secteur des mines ou dans le secteur des hydrocarbures, c'est souvent des investissements transfrontaliers. On retrouve les mines de chaque côté et il y a des intérêts contradictoires et parfois des intérêts convergents entre des sociétés qui exploitent, par exemple, en Ouganda, par rapport à celles qui exploitent au Congo, au Rwanda, en Zambie, en Angola. Et c'est ça qui est à la base de nos problèmes. Et je crois qu'au début de l'émission, Maître Chiba a insisté sur le fait que quand les Angolais viennent ici, ils viennent avec des dossiers ficelés. Or, aujourd'hui, avec les capacités que nous avons, toute la terre est exploitée. Les richesses sont connues. Et donc, il faut simplement utiliser tous ces moyens modernes pour avoir les moyens.
Un mot, professeur, en guise de conclusion, nous touchons pratiquement la dernière partie de l'émission.
Bon, en guise de conclusion, on a dit bien que la situation que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Il faut simplement développer dans le pays des politiques proactives pour anticiper sur tous les risques qui peuvent nous conduire à la dégradation générale de la situation de notre pays.
Professeur Tshibangu, un mot aussi pour conclure.
Oui, pour conclure, je veux dire que le pays aujourd'hui a beaucoup de problèmes de gouvernance et dans beaucoup de secteurs de la vie nationale. Eh bien, il faut que notre peuple se ressaisisse. L'année prochaine, il y aura des élections générales. Il faut en profiter pour faire un coup de balai général de manière à renouveler le personnel dirigeant de ce pays et progressivement pour que notre peuple arrive à produire des bons dirigeants qui vont prendre des bonnes décisions stratégiques, justes, et exécuter ces décisions de manière vigoureuse, avec détermination, pour, au moins une fois, bâtir dans ce pays un État moderne qui marche.
Merci à Al-Kitenge. Comment renforcer l'éthique et la bonne foi?
Déjà, en comprenant que quand vous êtes propriétaire de 100% des zéros, c'est zéro, et que donc nous ne pouvons travailler qu'avec les autres, nous devons apprendre à avoir la synergie gagnante avec les partenaires. Et quand les partenaires viennent chez nous, ils viennent pour gagner de l'argent. C'est à nous de déterminer comment nous gagnons notre part. Mais par contre, Un contrat, ce n'est pas qu'une question de droit, c'est surtout une question d'intérêt. Il est important que chaque fois qu'on donne les termes de référence aux juristes pour qu'ils fassent les contrats, qu'on leur donne qu'est-ce que nous attendons exactement. De sorte que quand ils ont mis l'enveloppe pour protéger les intérêts les uns et les autres, ils ont mis l'enveloppe sur quelque chose qui était prédéfini. Et ça, c'est quelque chose d'important.
Et au gouvernant, si vous étiez demandé un conseil?
Agir en toute connaissance, agir en toute intelligence, se doter de ses propres plans pour éviter d'être dans les plans des autres. Aujourd'hui, tout le oil, KMT, First Quantum et tout le reste, c'est très malheureusement des contrats dans lesquels nous nous sommes trouvés pieds et mains liés, simplement parce que c'est des contrats qui ont été initiés par les autres.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Cette émission est terminée. Merci à vous qui avez été des millions à nous suivre à travers le monde. Guy Maté et Samuel Kachak ont préparé cette émission. Martin Sebujangwe l'a supervisé. Willem Lungamba était à la mise en onde. Bob Landau à la coordination technique. Présentation Alain Hiroum-Mouchige. Au revoir.
L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion.